Un peu plus de 14h sur Radio Plus, soyez bienvenus si vous nous rejoignez. Émission spéciale jusque 16h en direct d'Hénin Beaumont à l'occasion de la fête du sport. Un rendez-vous ouvert à tous les publics, sportifs ou non d'ailleurs, puisque vous avez la possibilité de découvrir et d'essayer pas moins de 30 disciplines différentes. Avec deux sites qui vous accueillent, le site de l'espace François Mitterrand et le site du magasin Décathlon à Hénin Beaumont, avec une navette assurée entre les deux lieux, navette totalement gratuite. Et pour ceux qui souhaitent venir, on vous rappelle évidemment que toutes les mesures barrières sont requises, donc port du masque, distanciation et lavage des mains obligatoires à l'entrée du site également. Alors au micro se succèdent également différents représentants des clubs sportifs, et à Hénin, le football est roi. Alors peut-être pas roi, mais en tout cas il y a plusieurs clubs de football qui sont présents, et nous allons parler justement du football féminin en compagnie de Clément cette fois-ci.
Oui, je suis avec Christophe Leleu, enchanté. Merci. Bonjour. Représentant du football club féminin d'Hénin Beaumont. Un club qui a quand même un passif, puisqu'il ça fait maintenant bientôt 50 ans qu'il existe. Parlez-nous un peu de l'historique de votre club.
Donc je vais déjà me présenter. Donc Monsieur Leleu, je suis donc le président. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis au poste, mais je me suis bien renseigné par rapport au club. À savoir donc oui, c'est un club qui date depuis 1972. Un club où il y a eu des très grandes joueuses qui sont passées dans notre centre de formation, qui ont évolué, qui ont fait la Coupe du Monde cette année féminine avec l'équipe de France. Donc un club avec une belle réputation, un club qui, suivant ses moyens, essaie de s'en sortir du mieux qu'il peut. Aujourd'hui, donc, nous avons 177 licenciés de 5 ans jusqu'à 36-37 ans. C'est un club donc 100% féminin. On n'a pas de garçons qui jouent chez nous. L'encadrement, il y a du masculin comme du féminin. Au niveau administratif, c'est pareil, hein, aussi bien dans les membres du bureau, du comité directeur, nous avons aussi bien de la gente masculine que féminine. Aujourd'hui, on a de l'ambition, on voudrait continuer à se faire connaître, on aimerait aussi que le football féminin soit un peu plus représenté et plus suivi et plus connu sur le territoire français. Et si on peut parler un peu, pour nous aujourd'hui, on a des objectifs qu'on aimerait atteindre. Ce serait démonter pour toutes nos équipes à partir des U18. On aimerait bien monter en 19 nationaux, hein, pour récupérer bien sûr des plus belles affiches et jouer des matchs plus intéressants. On aimerait que notre équipe réserve, où là on met en avant beaucoup la jeunesse pour que ces demoiselles puissent connaître le foot senior, où c'est un grand changement au niveau mentalité et physique sur le terrain. Donc pareil, même si c'est des jeunes qu'on met en place, on aimerait aussi les faire monter d'un niveau fin de saison et voir aussi gagner notre fameuse coupe du district Artois. Et ensuite nous avons notre équipe première qui évolue en R1, où on a un potentiel, on a pour moi les joueuses pour pouvoir en fin de saison aller chercher les barrages et atteindre le niveau D2.
Des objectifs ambitieux, car oui, votre équipe première est toute proche de jouer le championnat national de deuxième division, même si le football féminin est moins médiatisé, ça reste quand même quelque chose d'important, la D2, que ce soit en football masculin comme féminin.
Oui, la D2, c'est vrai que c'est un championnat très intéressant. Pour y accéder, c'est très difficile, et au plus les années avancent, au plus c'est difficile pour arriver en D2. Mais aujourd'hui, je veux dire, l'espoir est permis. Je pense qu'on a sur le terrain, sur nos feuilles, les qualités pour pouvoir y arriver. On a aussi tout ce qu'il nous faut au niveau éducateur et structure pour pouvoir travailler correctement. Donc oui, on aimerait retourner en D2 comme les années précédentes et puis pouvoir lever bien haut et vraiment être bien fier de notre fanion.
Et puis il y a aussi l'objectif annexe dont on discutait tout à l'heure, la Coupe de France. Avec cet objectif que vous avez annoncé, les filles doivent se faire plaisir en Coupe de France.
Alors oui, ben après, tout le monde a ses propres pensées. Pour moi, la Coupe de France, c'est la magie, c'est la magie du football, c'est la beauté, c'est là où il faut profiter et puis tout prendre ce qu'on peut prendre lors de cette compétition. Moi aujourd'hui dans ma pensée c'est que ben oui la Coupe de France pour moi appartient aux joueuses et les joueuses si elles veulent s'épanouir et puis prendre du plaisir c'est à elles d'aller le plus loin possible mais la Coupe de France pour moi appartient à mes joueuses.
Vous avez quand même dans l'idée voilà il y a ce doux rêve de rejouer encore contre Lyon comme il y a quelques années. De rejouer Lyon, rejouer Paris, rejouer Montpellier, des équipes, des places fortes du football féminin français, pour remettre un peu le football féminin à la place qui est la place qui est la sienne et lui apporter encore ajouter une pierre à l'édifice de sa médiatisation et de sa montée en régime un peu au niveau national.
Ah, oui, c'est sûr qu'on a eu cette chance de il y a quelques années en arrière de pouvoir jouer une demi-finale de Coupe de France contre Lyon. Où c'était plus un match festif et de fête et de joie que la compétition. Bon, on savait que Lyon est une des plus grandes équipes d'Europe en féminin. Pour rivaliser, c'est très compliqué, c'est pas du tout le même monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez une affiche, que vous jouez Paris, Lyon, Montpellier ou des grosses équipes qui sont très connus, c'est vrai que pour nous, c'est toujours une fierté et un plaisir d'être arrivé jusque-là pour pouvoir les rencontrer.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison ?
Alors, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour cette saison ? J'ai mis la barre un peu haute. On a des ambitions qui sont un peu élevées, c'est sûr. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'y arriver et puis passer cette barre.
Et évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite et que les objectifs soient atteints. Alors, ces objectifs élevés, ambitieux, affichés, ça pourrait laisser penser que voilà, il y a quand même une certaine exigence et c'est bien normal quand on veut atteindre ses objectifs à un moment. Aujourd'hui, une fille qui nous écoute, une jeune fille qui veut pratiquer le football en loisir, comme ça, juste pour le plaisir de jouer entre copines, elle peut aussi le faire dans votre club.
Oui. Alors en fait, dans l'explication, aujourd'hui, le club est parti sur une politique où on ne prend pas une licence pour prendre une licence. C'est-à-dire que on va pas prendre une fille, lui faire signer une licence si on peut pas la faire jouer. Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai un staff qui peut encadrer un nombre de filles. J'en prendrai pas plus. Aujourd'hui, j'ai encore un peu de place. C'est vrai que j'ai encore un peu de place. Je peux encore prendre des filles. Mais comme je vous disais, les filles peuvent venir chez moi. Il n'y a pas un concours d'entrée. Mmh. On n'est pas chez les professionnels. Il n'y a pas un concours d'entrée. Il faut pas oublier qu'on est quand même à la base d'une association. Donc, on ne refuse personne. Si un jour je dois refuser quelqu'un, c'est parce que je n'ai plus la place
par manque
et les
de place
structures et pour les accueillir.
Et non pas par manque d'envie. Mais alors justement, on imagine aussi que au-delà de l'aspect on se rencontre, on est intéressé pour jouer au foot et on veut une licence et on l'a en contrepartie. S'il y a de la place effectivement, j'imagine aussi que il y a un état d'esprit à avoir sur le terrain des qualités, un peu les valeurs du club auquel il faut adhérer. Quelles sont-elles ?
Nous, on s'engage avec mon staff technique de leur apporter de la qualité au niveau des entraînements, de leur amener de la qualité technique au niveau des matchs. Et aujourd'hui, nous, je veux dire, la seule chose en contrepartie qu'on exige un peu, c'est être régulier sur les séances d'entraînement et sur les convocations de match. Et ensuite, c'est vrai que toutes mes filles sont équipées et je demande aussi qu'elles représentent le club à travers l'équipement quand elles se déplacent au match ou différentes manifestations.
L'esprit club jusqu'au bout, on l'a bien compris et bien. Merci beaucoup Christophe Leleu d'avoir été notre invité pour parler et pour représenter le football club féminin d'Hénin Beaumont. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Te racontent des visages, se rendent compte leur miroir d'indifférence, ne t'accordent aucune tolérance. Les murs blancs te volent à l'ombre des nuits sombres, déprimants les murmures, les évidences, ne t'accordent aucune tolérance. Tu balances ta tête dans le vide immense, des petites à honte d'une accoutumance. Tu balances ta tête, tu jettes par la fenêtre un regard ébloui, ton passé qui s'enfuit. Les murs blancs, ils t'emprisonnent, ta pose à l'ombre. Oh, indécence, leur miroir d'indifférence, ne t'accorde aucune tolérance. Une balançoire, tu vises le trottoir, payant l'innocence et ta décadence. Toi, tu hurles dans le noir, à quoi bon tant d'espoir? Tu balances ta tête dans le vide immense, déglutis ta honte d'une accoutumance. Tu balances ta tête, jette par la fenêtre, un regard ébloui, ton passé qui s'enfuit. Tu relèves ta tête, tu cries ton mal d'être, entré par hasard au milieu de nulle part. Exclus de ta tête, jette par la fenêtre le bordel entrant d'une accoutumance.
Sébastien Charles avec les murs blancs sur Radio Plus. Alors à l'occasion de cette fête du sport, il y a des démonstrations qui vous sont proposées. Vous pouvez également échanger avec les responsables des clubs sportifs. Dans quelques instants, on parlera du tennis club béninois en compagnie de Fabrice Henriot. Mais tout à l'heure, Clément, tu es allé justement à la rencontre des participants. Tu y es allé en milieu de matinée, c'était encore assez calme, on l'entendra dans le reportage, mais tu as fait plusieurs rencontres que l'on va découvrir dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
J'ai un peu vadrouillé, j'ai été voir les stands, je me promenais, j'étais un spectateur de plus, et puis il y a quand même un peu d'activité sur certains stands ce matin. J'ai pu rencontrer des boxeurs très intéressants, j'ai pu discuter sur le stand du football américain qui était très très représenté ce matin. Il y avait beaucoup de monde qui jouait, qui s'entraînait, ils espéraient pouvoir faire une petite activité, une petite opposition entre les spectateurs. J'ai essayé de voir des gens aussi, voir ceux qui venaient voir, par quoi ils étaient intéressés. Et au final, c'était assez disparate.
Eh ben, on va découvrir tout ça au travers de ce petit reportage.
Ça se passe bien?
Très
depuis
bien.
Le début de la journée, vous avez du monde?
Ça arrive au compte-gouttes. Après, je pense qu'on aura plus de monde vers 11h ou cet après-midi. Après, beaucoup de personnes travaillent aussi le samedi matin, donc
Ouais, donc la matinée pourrait être peut-être assez calme.
Oui. Et puis avec toutes les restrictions sanitaires à laver le matériel, tout ça, ça nous permet aussi de nous préparer à tout désinfecter avant,
avant la
l'heure fatidique, on va dire.
Vous espérez avoir un peu de monde, peut-être organiser peut-être une mini-opo en flag.
Oui, on espère avoir du monde. On a déjà nos footballeurs américains qui sont déjà équipés, qui attendent pour montrer. Et là, on a quelques enfants qui sont déjà en train d'essayer la pratique du flag football.
Ah bah, on espère que ça vous attirera un peu plus de monde.
Bon, on espère aussi. On est là pour ça, pour faire découvrir ces nouveaux sports sur la commune d'Hénin-Beaumont.
Allez, bonne journée à vous,
bonne
en tous
journée,
les cas.
Bonne journée,
au revoir. Salut, du coup, vous êtes venu pour la journée?
Bon, en fait, on est licencié au club de boxe.
Vous êtes licencié au club de boxe?
Ouais, c'est ça.
Donc, ça se passe bien pour le moment?
Oui, c'est bon.
On vient d'arriver, quoi. Ça va.
Vous allez vous occuper toute la journée, vous allez accueillir des gens, vous êtes là pour organiser un peu? Ou pour venir en aide?
Pour accueillir.
Faire voir le domaine de la boxe aux petits, leur apprendre un petit peu la boxe.
Voilà. Vous espérez avoir un peu de monde, vous espérez initier quelques. Peut-être le futur Tony Yoka de notre pays.
Ouais.
Dormi vous quatre là, c'est lequel le meilleur? Honnêtement.
Honnêtement, ouais. Honnêtement, on peut se le cacher. On a chacun le box différent, donc on ne peut pas dire qui est le meilleur.
Alors c'est bon.
On va rester humble.
Belle phrase. C'est bien. Merci les gars. Passez une bonne journée.
Merci.
Ah, vous êtes venus pour voir quel sport alors vous?
On n'est pas venu pour voir un sport, on est venu pour tenir un stand.
Tenir un stand, vous tenez quel stand?
De foot, du stade Hénin.
Vous vous occupez du stade Hénin?
Oui, c'est ça.
On espère avoir du monde aujourd'hui?
On espère, on va se relier toute la journée pour essayer d'avoir du monde.
Mais bon, je vous le souhaite en tout cas. Passez une bonne journée. Bonjour, alors vous êtes venu voir quel sport vous en famille?
Bah, la boxe, vu qu'il fait de la boxe.
Ah, tu pratiques la boxe?
Oui.
Ça fait longtemps?
Ça fait 6 ans.
6 ans maintenant, oui. Il y a de l'expérience. Du coup, vous êtes venu voir le stand un peu?
Oui.
Voir comment ça va se passer?
Oui.
Vous allez peut-être faire un peu le tour, voir peut-être de coin de l'œil ou autre chose? Bah, je vous souhaite une bonne journée alors.
Merci à vous aussi.
Passez une bonne journée, au revoir.
Ma région, ma passion.
Et merci pour ce reportage réalisé donc par Clément Gariou de Radio Plus. Clément avec nous pour accueillir notre prochain invité. Et c'est vrai que ce matin, le monde a peut-être eu un petit peu de mal à venir. On l'entendait dans l'interview, mais on voit pas mal de passages depuis tout à l'heure avec des gens qui sont assez curieux, qui ont envie de découvrir et de tester aussi ces sports. Et pourquoi pas découvrir aussi le tennis. Leur salle d'ailleurs est juste derrière nous, juste derrière le studio de Radio Plus au sein de cet espace François Mitterrand. Et pour présenter le tennis club héninois, on accueille Fabrice Henriot au micro de Clément.
Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors, merci d'être à notre micro. Donc vous êtes le représentant du tennis club héninois. Vous pouvez nous présenter en succinctement, en quelques mots, votre organisation?
Très bien, oui. Moi je suis président du club depuis 3 ans simplement. Et le club d'Hénin-Beaumont compte 258 adhérents, ce qui en fait un des plus gros clubs du département. Nous avons bien sûr des enseignements collectifs destinés aux jeunes, aux adultes. Et nous pratiquons aussi le loisir. Les gens peuvent prendre une licence simplement pour jouer, se faire plaisir. Et nous avons la chance à Hénin-Beaumont d'avoir un terrain de paddle extérieur. Je pense que, en tout cas, il y a 2 ans, quand il a été construit, nous étions le seul club du département, peut-être même de la région, à avoir un terrain de paddle dans une structure publique.
Alors justement, la différence entre le paddle et le tennis?
Alors le paddle se joue sur un terrain normal à 4. Et c'est un mix de squash et de tennis. C'est beaucoup plus ludique, ça demande un petit peu moins de technique quand on veut débuter, un peu plus facile. Et c'est très plaisant, on joue avec les rebonds des parois, c'est un peu plus sympa.
Oui, c'est le tennis club héninois permet donc d'avoir une diversité dans les activités qui est assez importante. Il y a quand même des jeunes, il y a des catégories jeunes, il y a des catégories loisirs, comme je disais, il y a du paddle. On peut faire beaucoup de choses.
Oui, on commence dès 3 ans les premiers cours en baby. Et on a des cours après, bien sûr, qui vont différents âges. Le mini-tennis jusqu'à 11 ans. Et puis après, l'école de tennis pure qui va de 12 à 18 ans. Et après, des enseignements pour adultes.
comme les autres clubs, du coup, vous avez été impacté par la crise sanitaire du printemps. Est-ce que vous pouvez nous dire, économiquement comme sportivement, comment le tennis club béninois a géré cette situation?
Alors, c'était assez brutal pour nous, puisque ça s'est déroulé au moment de notre tournoi Open Volvo, qui est un gros tournoi. Nous avions des réservations, des inscriptions, chez les femmes, par exemple, en négatif. C'est-à-dire, ce sont quasiment des joueuses professionnelles. Nous en avions un nombre assez considérable, ce qui n'était jamais arrivé pour nous. On avait vraiment de belles affiches en perspective. Et au bout d'une semaine, le tournoi dure 3 semaines, mais au bout d'une semaine, il y a eu un décret pour toutes les activités, pour toutes les associations sportives, de stopper notre tournoi. Et de ce fait, le tournoi s'est arrêté, les interclubs se sont arrêtés, les entraînements se sont arrêtés, la pratique loisir s'est arrêtée, tout s'est arrêté jusqu'au 2 juin.
Alors justement, le Covid toujours présent, qui impacte aussi forcément votre manière de travailler, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui est susceptible aussi d'impacter les tournois. Il y avait eu ce cas dans le Nord, du côté de Saint-Martin-les-Boulogne, d'un tournoi annulé parce que un des participants dans une catégorie donnée sur un tournoi qui regroupait plusieurs joueurs et plusieurs catégories était tout simplement annulé en raison de ce cas de Covid. Est-ce que quand on monte un événement aujourd'hui, alors la saison la reprend pour vous, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on craint de devoir tout annuler en dernière minute, et comment on y fait face surtout?
Alors vous avez tout à fait raison. Je dois dire que je n'ai pas encore réfléchi à la question de comment tout arrêter si ça arrive. On croise les doigts, on va suivre le protocole de la fédération et le protocole qui était aussi instauré au sein de l'espace François Mitterrand. Si on respecte les consignes, normalement, les gens maintenant sont détectés avant d'arriver. En tout cas, les joueurs professionnels sont détectés avant d'arriver. Ils ont passé des tests. Normalement, ça devrait bien se passer.
Mais ça ne vous freine pas en tant que responsable de club de
Non. Si on commence à avoir peur, on fait plus rien. Non, il faut avancer. Il faut faire abstraction sans l'ignorer, mais il faut faire abstraction absolument psychologiquement de cette crise sanitaire.
Clément.
Et maintenant que tout a repris, du coup, vous avez quand même des mesures assez drastiques. Vous devez quand même avoir une adaptation de votre pratique sportive dans les médias et dans les faits, dans le concret.
Oui, c'est vrai. Alors, nous, on a quand même la chance au tennis d'être favorisé par rapport à des sports collectifs ou bien à des sports de contact, évidemment, comme le judo ou le karaté ou la boxe, enfin, peu importe. C'est quand même beaucoup plus facile pour nous puisque les joueurs sont forcément à distance les uns des autres. C'est plus en termes de cours collectifs que c'est un peu plus gênant. Donc les vestiaires collectifs sont interdits. Il y a une désinfection des mains à l'entrée du terrain, une désinfection des mains à la sortie du terrain. Les joueurs, quand ils sont, en tout cas les enfants, quand ils attendent une balle ou autre, ils doivent être en distance de 1 mètre quand ils sont en position statique et en position dynamique de 2 mètres. Ce sont les consignes de la fédération. On les suit scrupuleusement et portent du masque obligatoire pour l'enseignant s'il est à moins de 2 mètres des enfants.
Du coup, maintenant que la saison a repris, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
Vu le contexte, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il ne faut absolument pas que le Covid revienne et fasse une interruption, sinon c'est la catastrophe. Bon, on a été aidé quand même par l'État de manière considérable, mais il faut quand même que ça fonctionne. Bon, au tennis, on n'est pas les plus mal lotis.
Il faut que ça puisse effectivement tourner, et puis surtout j'imagine aussi qu'au-delà des aspects sportifs et économiques, pour le pratiquant c'est quand même bien de se dire qu'il y a une saison qui va au bout sans contrainte.
Oui, tout à fait, vous avez raison.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Henriot. Juste avant de se quitter, si l'on souhaite adhérer à votre club, où est-ce qu'on se rend? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, on peut se rendre à l'espace François Mitterrand. Quelquefois, le service des sports m'envoie des gens en leur donnant mon mail ou bien mon téléphone. Et sinon, nous avons un site. Le site, c'est tc-du6 Hénin-Beaumont. Toutes les informations sont dessus.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bonne saison 2020-2021.
Merci à vous, bonne journée.
Qu'est-ce qu'on risque à passer pour des fous? La musique fera toujours de nous des rêveurs. Son échappatoire pour ailleurs, un monde meilleur. je viens. Déjà en 1980, sans illusion et sans lendemain. 1980, c'est pas la fin. Qu'importe ceux qui ont servi d'exemple, se rejoignent, se suivent et se ressemblent. Les rêveurs. Passer le temps, les couleurs qu'on porte et les courants. Question d'heure, non, rien ne se marre, non. C'était en 1980, une génération qui n'attendait rien. 1980, d'où je viens. Sans illusion et sans lendemain. 1980, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Génération qui n'attendait rien. 1980, d'où je viens. Déjà en 1980, sans illusion et sans lendemain. 1980, c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. C'est pas.
Pascal Obispo à l'instant sur Radio Plus avec 1980 Radio Plus qui vous fait vivre la fête du sport à Hénin-Beaumont en direct jusque 16h, la fête du sport elle qui se déroule jusque 19h à l'espace François Mitterrand et au magasin Décathlon d'Hénin-Beaumont.
Le samedi 5 septembre, Hénin-Beaumont, c'est la fête du sport. On met le maillot, le short et les baskets et direction l'espace François Mitterrand, ainsi que sur le site de Décathlon dans la ZAC du bord des eaux entre 9h30 et 19h pour découvrir pas moins de 30 sports différents. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus.
Et à 14h30, on va de nouveau parler de boxe et du Boxing Club Béninois. Je dis de nouveau parce que tout à l'heure, on a reçu Mona Mestien à notre micro. Et puisque nous avons aussi le plaisir de recevoir les sportifs de haut niveau, eh bien on a l'immense honneur également d'avoir Mathieu Boderlic avec nous du Boxing Club Béninois que l'on a pu apercevoir notamment aux Jeux Olympiques et qui nous parlera de son parcours et de sa carrière dans quelques minutes. Mais on va aussi surtout parler de ce club, le Boxing Club Béninois, en compagnie de son président, Jean-Claude Allary. Bonjour Jean-Claude Allary.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Plus. Alors quelques mots bien sûr pour nous présenter ce club, un club avec une longue histoire mais aussi surtout avec un long palmarès.
Effectivement, bon, le club existe depuis 1948. Il a été créé par monsieur Louis Sillon. Je précise qu'à l'époque et pour la première fois en France, deux boxeurs héninois dont la ville s'appelait Hénin-Liétaire sont devenus champions du monde aux États-Unis à Chicago. Dans la catégorie amateur, il s'agissait de Charles Humez et Louis Nouveau-Viax, qui sont par la suite passés dans la catégorie professionnelle. Mmh.
Alors, ce club qui existe depuis 1948, qui dans son ère, déjà finalement à l'époque comportait son lot de champions, mais qui dans son ère moderne a beaucoup de champions là aussi. On a Mathieu avec nous, on avait Mona Mestien tout à l'heure, il y a Oisin Derieux, championne du monde aussi dans sa catégorie. Parlez-nous un petit peu du palmarès des Héninois et des Héninoises.
Bon, quelques-uns se préparent même pour les Jeux Olympiques. Je pense que Mona vous a expliqué tout à l'heure. Mm-hmm. Nous avons Mona, bien sûr, mais championne de France, qui se prépare aux JO, assis de Monsieur Morad Abiev, qui est médaille d'argent au championnat d'Europe et champion de France également. Notre club aussi, nous avons Laïd Douadi, mm-hmm. qui est invaincu, que vous connaissez très bien, champion de France. Je pense que nous avons un très beau palmarès. Et dernièrement, nous avons eu un junior, Younes Mehdi, champion de France également.
Alors, très beau palmarès. Et ça, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de travail qui est fait à Hénin Beaumont pour que les boxeurs se sentent bien, soient bien préparés. On en parlera aussi avec Mathieu dans quelques instants. Et il y a un homme clé derrière tout ça, c'est Mohamed Nishan, l'entraîneur.
Oui, il y a Mohamed Deschan, et puis
il n'est pas tout seul, évidemment, mais voilà. C'est le nom qui est connu dans le monde de la boxe.
Oui, exactement. Nous avons Mohamed Deschan, mais nous avons aussi Paul Fournier, qui sont des excellents entraîneurs.
Alors, ils encadrent combien de boxeurs dans ce club héninois? Alors, évidemment, ils sont pas tout seuls, mais voilà, il y a quand même des boxeurs qui touchent au très haut niveau. Il y a aussi des boxeurs qui viennent pour le plaisir. On va parler des activités qui ont lieu au sein de ce club de boxe à Hénin.
Oui, effectivement. Nous avons le club qui compte 180 licenciés, dont 68 boxeurs éducatifs, c'est-à-dire des enfants de 8 à 15 ans. Nous avons des professionnels et ceux qui boxent en amateur et en boxe loisir.
Donc effectivement, un beau panel de tout ce que propose la boxe. À partir de quel âge on peut pratiquer ce sport, Jean-Claude Allary?
La boxe éducative, à partir de 8 ans.
À partir de 8 ans, et après, on peut éventuellement choisir de s'orienter, on imagine, vers la pratique compétitive.
Exactement.
Et les créneaux d'entraînement, quels sont-ils, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être rejoindre ce club?
Bon, les séances ont lieu du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h30. La boxe éducative, de 8 à 15 ans, mm-hmm. le lundi et le mercredi, de 18h à 20h. Et la boxe loisir, le lundi et le jeudi, aux mêmes horaires. Et la boxe pour les juniors amateurs, mêmes horaires également.
Alors là, forcément, on reprend doucement après une longue interruption qui a dû faire mal au cœur à tous les pratiquants de sport. Comment s'est passée la reprise post-Covid?
Vous savez, c'est la situation sanitaire... nous avons fait des gestes barrières, mais c'est pas facile.
C'est quand même compliqué dans un sport de contact, effectivement, ouais.
Voilà, effectivement. Bon, maintenant, il faut attendre les dérogations pour continuer notre démarche.
Il y a toujours ce souhait d'organiser des événements Hénin, parce qu'il y a le savoir-faire sur le ring et puis il y a le savoir-faire aussi dans l'organisationnel. Vous organisez régulièrement des championnats de prestige, championnat d'Europe, championnat du monde. C'est toujours d'actualité, sous réserve de la situation sanitaire, bien sûr, cette saison.
Oui, nous avons prévu un championnat d'Europe le 7 novembre à l'espace François Mitterrand. Mais comme je vous avais dit, compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes statu quo.
Il faut effectivement attendre. Si on souhaite rejoindre le club, on peut donc se présenter aux séances. Si on souhaite suivre l'actu du club, est-ce qu'il y a un site internet où on peut trouver les résultats, quelque chose?
Bon, vous avez moi-même, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Mmh. Hein. C'est le 06 73 48 02 13.
Au-delà de la situation sanitaire, quels sont les objectifs pour le club cette saison?
C'est d'avoir encore des champions.
encore et toujours plus, alors finalement, Jean-Claude.
Oh oui, je pense que nous sommes un club de quand même un club de formation. Mm-hmm. Nous avons eu des grands champions comme Nordine Obali, Kitoum Karim, Mehdi Hakim, Tony Santoro et bien sûr notre futur champion Mathieu Boisderlic.
Mais alors justement, la question que je me pose quand on est un club comme le vôtre réputé, est-ce qu'on fait pas des envieux? Alors je prends un parallèle avec un sport qui est le football par exemple. On sait très bien qu'un club de football qui va avoir des résultats, on va essayer d'attirer les joueurs pour essayer de se renforcer. Est-ce que cette logique-là d'être un peu envieux quand on est un club voisin, est-ce que ça existe aussi en boxe? Et est-ce qu'on la ressent, est-ce que vous la ressentez auprès des Hénin Beaumont par exemple?
Moi je le ressens parce que personnellement, mais on n'est pas envieux parce que nous avons les titres qui sont présents dans le club. Mm-hmm. Alors, que dire de plus?
Mais il n'y a personne qui a essayé de vous piquer un boxeur
Non, non, c'est pas le cas. Il y a le président, il est présent.
il garde... Les moutons sont bien gardés, comme on dit. Exactement. Alors, juste à côté de vous, et on va l'accueillir dans un instant, c'est Mathieu Boderlic, grand champion, là aussi. Mais là, j'aimerais, Jean-Claude Harry, que vous me disiez quelques mots au sujet de Mathieu, parce que je pense aussi qu'il y a l'œil du président, un peu papa poule aussi que vous êtes. Moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de Mathieu, avec vos mots à vous.
Ben, Mathieu, il a commencé la boxe à l'âge de 10 ans. Son papa pratiquait déjà la boxe. Et de fil en aiguille, il est venu dans le club, et par la suite...
Et par la suite, il va nous la raconter, évidemment. Bienvenue, Mathieu, au micro de Radio Plus. On va juste remonter un petit peu le micro pour bien s'entendre. Voilà. Alors, tomber dans la boxe, finalement, très petit, quasiment au tout début, puisqu'on disait qu'on peut commencer à 8 ans, et puis vous, à 10 ans, vous étiez sur le ring, quoi.
Exactement. Mon père faisait déjà de la boxe auparavant, quand il était plus jeune. Mm-hmm. Il a toujours été un peu un routier des clubs, on va dire, de boxe. Et par la suite, moi, j'ai voulu vraiment prendre au sérieux, et j'accrochais assez rapidement, de par les valeurs que ça véhiculait, ce sport. Mm-hmm. J'ai vite intégré un club formateur, donc Hénin Beaumont, forcément. Donc mon arrivée était à l'âge de 14 ans. J'ai été accrocheur assez rapidement au niveau de ce sport, d'où par rapport à la combativité, j'étais hyper actif, donc il fallait vraiment canaliser cette énergie, et j'ai su la retrouver dans la boxe.
Et la traduire aussi sur le ring pour faire des résultats dont on va parler dans un instant. Alors on parle de club formateur. Moi j'aimerais bien que vous me parliez de l'ambiance de travail à Hénin, parce que on se faisait la remarque avec Mona Mestien tout à l'heure. C'est vrai que la boxe à Hénin Beaumont, c'est aussi ce subtil mélange entre les boxeurs de haut niveau qui vont pas hésiter à aller aider les plus jeunes, qui vont pas hésiter à être présents aussi là où on pourrait tout simplement boxer dans son coin pour être focalisé sur l'objectif. Non, il y a un vrai partage à Hénin Beaumont, en fait.
Exactement. Il y a le côté aussi familial aussi. Mm-hmm. Et les valeurs de Mohamed aussi se répercutent sur ces boxeurs, hein, automatiquement. Mm-hmm. Il y a l'idée aussi que avant d'atteindre le haut niveau, on était un boxeur lambda, un boxeur normal. Mm-hmm. J'avais pas forcément toutes les chances de mon côté, parce que j'étais assez gros, assez petit. Mais bon, j'avais la nervosité, j'étais assez actif et j'étais combatif aussi. Et forcément, moi, j'ai toujours été aidé par les plus anciens, Karim Ketoun, Hakim Mehdi, c'était des exemples pour nous. Mm-hmm. Et ils nous ont toujours fait partager l'esprit de partage, voilà, de partager son expérience. Et c'est comme ça que, forcément, ça s'est tenu au fil du temps.
On a l'habitude, hein, sur Radio Plus de suivre ce club des nains, ses résultats, et c'est vrai que il y a pas un jour où on va consulter les réseaux sociaux des différents boxeurs où on voit pas un trop content d'avoir partagé cette séance avec Mathieu, cool d'avoir revu Mathieu Boderlic, etc., etc. Vous avez le sentiment d'être un exemple aujourd'hui dans ce club, un modèle à suivre?
Je pense pour les jeunes, oui, et puis même pour les plus expérimentés dans mon club, mais il faut se référer à quelque chose. Mm-hmm. Moi, auparavant, c'était les professionnels, quand j'étais amateur, enfin quand même éducatif, et il faut s'attacher à quelque chose.
Mais est-ce que ça génère pas une forme de pression, justement, d'être un exemple, un modèle à suivre?
On reste nous-mêmes, simplement. Maintenant, ce qui est important dans le sport, c'est les résultats. Mm-hmm. Voilà, on peut avoir un mauvais comportement si on est performant sur le ring, voilà, c'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est les valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents, donc voilà, je reste naturel.
Les résultats, justement, à un moment, ils sont importants, ils sont facteurs de réussite. On le voit, hein, c'est un club qui réussit partout où il passe. Quel regard vous jetez sur les résultats de ce club?
Ça a toujours été un très bon club formateur. Mm-hmm. Au niveau national et international, Mohamed a toujours formé des boxeurs à venir, des boxeurs formateurs et des boxeurs performants pour le niveau international. Il a toujours eu des boxeurs membres de l'équipe de France. Mm-hmm. C'est pas anodin, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vraiment une belle école une belle école et un bon club formateur, oui.
On va parler de vos résultats à vous, votre palmarès éloquent là aussi, ceinture mondiale, participation aux Jeux Olympiques de Rio, champion de France, etc., etc. Moi j'aimerais que vous me retraciez un petit peu votre palmarès justement.
Mais écoutez, je suis arrivé à 14 ans au club des Nimbomont. Je gravis les échelons assez rapidement, j'arrive facilement, enfin pas facilement, mais je me fais sortir ma première année en amateur face à un boxeur international qui était déjà membre de l'équipe de France et j'ai rivalisé avec lui avec peu de niveau que j'avais. Donc je suis tombé vite dans le regard des équipes de France très rapidement. Donc je perds en demi-finale à l'âge de 16 ans et l'année suivante je me fais repérer, je fais quelques stages internationaux avec les équipes de France et je fais champion de France cette année. L'équipe de France me fait confiance et il m'engage dans le championnat d'Europe junior où je fais une médaille de bronze. Donc voilà, ça, c'est ce qui a été le moment déclencheur pour les équipes de me faire confiance et il y avait une énorme marge de progression. Donc forcément ils m'ont pris en interne à l'âge de 18 ans senior et c'est là que tout a commencé. Hein.
Et tout a commencé avec en point d'orgue les Jeux Olympiques. Quels souvenirs vous en gardez de cette participation?
Bah écoutez, pour moi c'était du pur bonheur. J'avais pris ma revanche, je concourais pour les Jeux 2012. Dû à des problèmes de poids, j'ai dû oublier ce rêve, on va dire, et ça se remanifeste 4 ans après pour les Jeux de 2016. Mm-hmm. Je garde l'esprit enfant. Forcément, vous êtes émerveillé quand vous voyez tous ces sports, tous ces sportifs de haut niveau. Vous êtes comme un enfant. J'avais 26 ans ou 27 ans. Mm-hmm. J'étais émerveillé. Pour moi, j'étais à Walt Disney à chaque moment. Donc non, j'ai pris vraiment plaisir. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait vraiment une équipe solide, une équipe solidaire et vraiment. C'est ce qui nous a poussé à faire des gros résultats et on a eu 6 médailles. C'était historique dans la boxe anglaise. Mm-hmm. C'est historique pour le niveau français d'avoir 6 médailles aux Jeux Olympiques. Donc, et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir contribué à cette performance, à ce quota de médailles extraordinaire.
Ouais. Évidemment, ça continue de travailler. Quels sont les objectifs pour la saison à venir?
Écoutez, je finis mon contrat avec RMC, parce que je suis en contrat avec eux pendant 4 ans. Mon contrat se termine en fin d'année. Et j'en saurai plus en janvier. Là, c'est une période vraiment très difficile après Corona, enfin après Covid. Il y a eu beaucoup de restrictions sanitaires et encore au jour d'aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Pour moi, il n'y avait aucune certitude et aucune probabilité de boxer cette année. Mais bon. Il y aura une possibilité de boxer peut-être au mois de novembre ou octobre, fin octobre, à huis clos, sans public. C'est du jamais vu, on va dire, forcément.
Donc et on ça va sait faire aussi l'impact du public, justement, quand Exactement. On est sportif.
C'est ce qui vous permet de faire des exploits, de pousser vos limites. Hein. Donc, oui, c'est très particulier. Cette année, ça va être compliqué, mais on finit cette année. Déjà son contrat avec son promoteur et sa chaîne télé et on respecte le contrat et on verra par la suite.
Et vous êtes de toute façon toujours à l'affût, prêt à remettre les gants si une opportunité de combat se présente, j'imagine.
Bien sûr, il faut pas lâcher le cap. On veut être champion du monde, on lâchera pas cet objectif. On y arrive, c'est bien, on n'y arrive pas, on aura essayé, mais en tout cas on va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir acquérir ce rêve, on va dire.
On parlait de valeurs que vous ont inculquées la boxe tout à l'heure. Alors justement, on sait que, et on en parlait en tant que sportif de haut niveau, vous êtes un modèle. Les jeunes auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle, et moins jeunes d'ailleurs, ont sans doute entendu aussi parler de votre parcours et particulièrement par le biais des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui nous écoute aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu perdu, qui est peut-être un petit peu en train de se chercher et qui pourrait trouver justement dans le sport de quoi se réfugier et de quoi se canaliser aussi justement?
Exactement, il faut savoir que rien n'est inaccessible. Avec la volonté, le travail et la rigueur, on parvient souvent à son but. Moi, comme je vous disais, à 14 ans, on ne misait pas une pièce sur moi. Hein. Voilà, d'où par ma corpulence et mon obésité. J'ai gardé ce cap et la détermination, et surtout, je croyais en moi. J'avais un bon entourage, mon entraîneur et forcément ma famille qui était là à mon écoute, et j'étais à leur écoute aussi, et à leur écoute de leurs bons conseils. Voilà, savoir que si on croit en ses rêves et si on travaille très très dur, on parvient à ses objectifs en général. Ouais.
Eh bien, on va rester sur ce message. Merci beaucoup, Mathieu Boderlic, d'avoir été notre invité boxeur au sein du Boxing Club béninois, accompagné de Jean-Claude Allary, président de ce même Boxing Club. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Bon week-end.
Merci.
54 sur Radio Plus. Alors ça veut dire, hein, si vous avez l'habitude de trouver le programme, qu'on va retrouver dans un instant une page de publicité. On revient à partir de 15h pour la dernière heure en direct de cette fête du sport. Fête du sport qui a lieu à Hénin-Beaumont jusque 19h sur place à l'espace François Mitterrand et au magasin Décathlon. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est gratuit, tout est prévu pour assurer le respect des gestes barrières. Alors n'hésitez pas à venir encore nombreux. Nous on se retrouve à partir de 15h avec nos derniers invités. Nous aurons Léo Collet, champion de haut niveau. Là aussi on parlera également de basket. Et puis on fera le bilan de cette fête du sport. À tout à l'heure.